Là, on se rapproche vraiment de la zone de la centrale.
Ah oui, Namie Futaba, c'est collé à la centrale.
C'est ça, qui accueille la centrale.
Ça fait partie de ces villes où il n'y a plus âme qui vivent depuis maintenant 9 ans. Il y a un barrage de police.
Et donc ici, on arrive dans la zone qui est évacuée encore.
Et là, c'est vrai, on voit des voitures abandonnées. Les routes autour sont barrées. Une station essence à l'abandon, avec la végétation qui reprend ses droits.
Là, ce qu'on peut voir, l'horloge au-dessus du magasin à gauche qui est arrêtée à l'heure du tremblement de terre.
C'est resté tout ça, tous ces paysages-là, est resté bloqué dans cette époque-là.
C'est vraiment un endroit où on n'a pas le droit de s'arrêter, le taux de contamination étant encore bien trop élevé. Et on ne sait pas quand est-ce que ces zones seront réouvertes à l'habitat.
Et on a une musique de fond, ce bruit entêtant là, du compteur GGR qui vibre. Qui augmente à l'impression d'angoisse que procure ce paysage abandonné. 0,82, 83, 93, 1,79 microsievert par heure.
Dans la voiture.
Et là, on est à 1,90. Ah, c'est abaissé à 1,77 et c'est reparti. J'ai parlé trop vite. Là, il ne faut pas tomber en panne ici. Hein. C'est pas l'endroit où il faut s'arrêter pour changer un pneu.
Pas conseiller, non.
Par le soleil et la sécheresse.
We're fucked. Je reviens du monde d'avant.
Imaginez le monde d'après.
Journal de bord d'un monde qui fond.
The whole place is burning.
Épisode 16. Japon,
1, 2, 3, 4.
Fukushima, avec les femmes et les mères en lutte.
D'un monde à l'autre,
Guy Ventil, sur France Inter.
Avec ceux qui refusent de se laisser couler.
Reportage sur les traces du changement climatique.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dernière étape au Japon de notre voyage dans le monde d'avant, avec des femmes et des mères qui refusent de se laisser faire. Non pas que je veuille faire un genre d'émission de genre, mais que c'est juste une réalité qui s'est imposée au cours de ce voyage dans la zone de Fukushima, 9 ans après la catastrophe nucléaire. En suivant la sociologue Cécile Asanuma-Brice du CNRS Tokyo, qui depuis mars 2011 suit les répliques humaines de la catastrophe, en prenant ce même train tous les mois, pour aller jusqu'à Fukushima, au bout de quelques jours, j'ai bien été forcé de reconnaître que ceux qui se battaient le plus, c'était des selles. À de rares exceptions près, partout où nous sommes allés rencontrer des citoyens mobilisés, les femmes étaient ultra majoritaires. Malgré les messages rassurants de la compagnie TEPCO, responsable de la centrale, et alors que la fin des aides aux déplacés entérine très clairement la volonté des autorités de tourner la page, ces irréductibles citoyennes continuent de vouloir faire toute la vérité. Mais attention aux clichés essentialistes. C'est pas parce qu'elles réagiraient en mer avec leurs tripes pour protéger leur progéniture. Bien au contraire, à force de travail et de persévérance, elles documentent la radiation et interpellent les pouvoirs publics au point d'avoir acquis une véritable expertise citoyenne écoutée par les chercheurs. Si bien aussi que ces derniers temps, les autorités nippones les conjurent de lever le pied sans succès. Alors jusqu'à 18h sur France Inter, je reviens du monde d'avant avec les femmes de Fukushima en lutte.
ヘルノブ入り今じゃゴースト団罪もない子供が甲状腺癌始めまして噂のプルトニウム安全神は福島で終わるもう食べられなくなる農作物どこまでいつまで汚染される放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない例えばペヨンジュンエイリアン
アンパンマン、ウルトラセブン、レベルセブン、ダブアイヌバンド、グリーンアイランド、ソフトバンク、ハードパンク、マツピーキヨシ、マツピーヒトシ、ザクマク、ゴジラモスラ、ポリス、コソドロ社長先生、マイコ、マイコハンタ、モリタケシ、バツヤスキア、タカタ様、放射の強い、放射の偉い、誰も差別しない、誰にも負けない、放射の怖い、放射のヤバい、見えない、匂わない、誰も逃げられない、安全だ、安全だ、安全だ、安全だ、ニュークリア、安全だ、安全だ、安全、事故らなきゃ、安全だ、安全だ、安全だ、安全だ、ニュークリア、安全だ、安全だ、安全、なくなれば、
je reviens du monde d'avant. Guy Van Peel sur France Inter.
Alors nous voilà dans le train entre Tokyo et Fukushima. Et c'est un trajet, Cécile Asano-Mabrice, que vous faites tous les mois maintenant, depuis 9 ans que cette catastrophe a eu lieu à Fukushima.
Oui, à peu près tous les mois, pour rencontrer les gens, parce qu'il y a tout un aspect sensitif. Fukushima, c'est pas uniquement des chiffres qu'on peut récolter dans tous les journaux du monde maintenant. C'est aussi le discours des gens, le regard des gens, et le fait de les accompagner quelque part dans tout ça. D'abord, ça a été la panique. Ça a été la panique pour tous. Le monde s'écroulait. Et même les autorités, en tous les cas ceux qui étaient censés devoir prendre la responsabilité de tout ça et de donner les directives à suivre, ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Et je pense que les gens l'ont ressenti assez vite, ce qui a généré une grande perte de confiance, parce que pour essayer de calmer un petit peu le jeu et d'essayer d'éviter les vents de panique, les informations ont été un peu dérobées. Les autorités venaient, au départ la zone d'évacuation n'était pas fixe, on dit 3 km, 10 km, 20 km, comme si ça s'était fait comme ça assez proprement, ça s'est pas fait comme ça du tout. Les autorités venaient en pleine nuit faire des carottages dans les jardins et ils disaient, vous, ça va, vous êtes encore dans la norme, vous pouvez rester. Et aux voisins, on disait, il faut partir. Et quand les voisins se réveillent le matin, il n'y a plus personne à droite, il n'y a plus personne à gauche et eux restent seuls. Donc petit à petit, la panique a laissé place cette fois à la recherche d'informations, à la formation. Et il y a énormément de gens qui se sont formés à la science nucléaire, à la mesure, qui sont allés à Tchernobyl, qui, petit à petit, ont amassé quasiment autant de données qu'un chercheur lambda sur la question. Et donc, suite à ça, il y a pas mal de gens qui ont eu un engagement pour faire des associations diverses et variées, certains pour mettre en procès TEPCO, d'autres le gouvernement, d'autres pour faire des actions médicales. Puis petit à petit, le gouvernement a eu une nouvelle politique un peu plus offensive sur la communication du risque qui est arrivée en 2013 pour le retour des populations à Fukushima. À ce moment-là, on a commencé également à parler du terme de résilience. Et là, lorsque l'on demandait aux gens d'être résilients, cette fois c'était une résilience physique dont il s'agissait, puisqu'il fallait qu'ils reviennent dans un paysage qui avait été bouleversé. C'est extrêmement anxiogène comme situation.
Je ne sais pas si on est en train d'arriver, mais on est en train de s'arrêter à une station, en tout cas, entre Tokyo et Fukushima. Mais ça me fait penser justement... pendant que le speaker est en train de raconter notre itinéraire, que justement dans les messages qui sont envoyés pour normaliser la catastrophe de Fukushima et ses conséquences dans la vie quotidienne des Japonais, c'est ce qu'on entend quand on allume la radio ou la télévision dans la région. En même temps qu'il y a la météo et les prévisions météorologiques, il y a aussi les prévisions de niveau de radiation qui sont données comme une information qui fait partie de la vie au quotidien des habitants de cette zone.
Alors, oui, ça peut paraître étrange. Il y a des fourchettes de radiation qui sont données effectivement sur le même ton que les informations météorologiques, avec par quartier la fourchette de radioactivité. Donc on est toujours dans une espèce de bras de fer entre l'administration qui veut montrer mais pas trop, entre la population qui veut oublier mais qui ne peut pas, avec des espèces de tensions permanentes et un doute très lourd partout.
Et mamonaku Ueno desu.
We will soon make a brief stop at Fukushima.
Le gouvernement vient de décréter que la zone était redevenue habitable.
La décontamination n'est pas terminée.
D'où
ces images de villes fantômes,
Pour le moment, la peur est toujours là et très peu de volontaires acceptent de revenir.
Alors, on rentre sous un joli portique avec un jardin à la japonaise, c'est-à-dire des arbres taillés au cordeau au bord de la colline. C'est une jolie petite maison japonaise et tout autour il y a les arbres, il y a les bois. Et jamais loin dans l'horizon, ces sacs noirs qui font une tonne chacun où on a récupéré la terre radioactive après la catastrophe. Konnichiwa. Arigato gozaimasu. On enlève les chaussures, bien sûr, c'est une maison japonaise. Et on rentre dans un petit intérieur où il y a ces deux dames qui nous attendent. Alors on nous sert tout de suite la petite tasse de thé vert, délicieusement parfumée. Il y a des petits gâteaux. Ito-san me disait que vous étiez toutes les deux de vieilles copines d'enfance et que vous étiez la mémoire vivante de ce village d'Itate.
Oui, Yoshiko et moi-même, nous sommes toutes les deux nées à Itate. Et ça fait 60 ans qu'on se connaît. Yoshiko est née ici il y a 80 ans et elle est restée ici. Et depuis, on se connaît et on a vécu toute notre vie ensemble avec toute cette communauté du village.
Eiko-san, vous dites que vous avez vécu toute votre vie ici à Itate, mais c'est pas vrai, puisque ce village, le 21 avril 2011, a été évacué sur ordre des autorités à cause des retombées radioactives de Fukushima. Comment vous l'avez pris, cette nouvelle ?
Au début, j'ai entendu les nouvelles par rapport à l'explosion de la centrale nucléaire. Et à ce moment-là, s'est posé aussi la question, est-ce qu'il faut évacuer ou pas ? Et je suis allé chez Yoshiko à côté et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? On avait perdu l'électricité à ce moment-là, donc on ne pouvait pas regarder la télévision. Mais moi, j'avais une petite radio portable. Et c'est ainsi que j'ai suivi 24 heures sur 24 les dernières nouvelles du tsunami, mais aussi de l'accident nucléaire. Au départ, quand l'ordre d'évacuation est tombé, on nous a expliqué que cette évacuation, on allait faire tout ce qu'il fallait pour qu'elle dure pas plus de 2 ans. Et on est passé de 2 ans à 4 ans, de 4 ans à 6 ans, et c'est ainsi que le temps s'est écoulé. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés toutes les deux dans la montagne, dans ces logements provisoires, à vivre ensemble. On a passé 4-5 ans comme ça, et je dois dire qu'on est plus que de la famille l'une pour l'autre.
Vous étiez des vieilles amies et vous êtes devenues des compagnonnes d'exil.
La vie d'évacué, c'est pas une vie, c'était quelque chose de très difficile. Et c'est pour ça que quand Yoshiko est venue me rejoindre, elle m'a donné le courage, elle m'a donné l'énergie de vivre longtemps. L'ordre d'évacuation a été levé 6 ans après la catastrophe. Mais en ce qui nous concerne, nous, ça nous a pris un peu plus de temps, 1 an et demi à peu près, ce qui nous a permis de revenir ici en décembre 2018.
Quand la nouvelle est tombée que le village serait réouvert, qu'est-ce que vous avez pensé ? Ça veut tout dire, ça.
J'ai pas du tout aimé cette nouvelle. Le village a organisé ce retour sous une bannière où on nous disait « voilà, bienvenue chez vous », mais mon sentiment par rapport à ça, c'est quelque chose que je préfère garder à l'intérieur de moi. Les autorités nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème particulier. Elles nous ont même parlé de cette agence internationale de l'énergie atomique qui disait, nous expliquait-on en village, qu'on pouvait vivre avec ce niveau de radiation. Les jeunes ne reviennent pas. Dans cette partie de la municipalité qui s'appelle Sasu, Je crois que sur 60 foyers, à peu près un tiers sont revenus, et c'est surtout des personnes âgées. Nos ancêtres sont là depuis des générations, depuis des dizaines, des centaines d'années. Ils ont construit et aimé ce village. Alors pour nous qui sommes âgés, d'une certaine manière, rester ici et la perspective de mourir ici, c'est aussi une façon de suivre nos ancêtres dans l'au-delà. Moi-même, je n'ai pas peur de la contamination parce que je suis âgé. Et donc, je préfère être ici et mourir ici. Toute cette terre contaminée qu'on voit entreposée dans des sacs, c'est une terre qu'on a cultivée avec amour.
Et ça, ça ne se mesure pas dans des tableurs Excel sur les pertes et les profits d'une catastrophe comme celle-ci.
Oui, Ito-san, il veut rajouter quelque chose.
Une des raisons pour lesquelles je vous ai amené ici pour rencontrer ces deux personnes, c'est leur engagement en faveur de la transmission de la culture culinaire de ce village. Une grande partie de leur travail consistait à fabriquer de la pâte de miso. Le miso, c'est un ingrédient fondamental de la cuisine japonaise. Ce miso qu'elles fabriquaient depuis très longtemps, avec l'accident nucléaire, eh bien, elles n'ont plus été en mesure de continuer à en faire parce que les ingrédients dont elles avaient besoin avaient été contaminés. Normalement, on en serait resté là, mais Dieu merci, chez Yoshiko Kanno, elle avait encore chez elle du miso qui restait de l'année précédente. Et c'est comme ça que, avec les instructions de Eiko, on a réussi à continuer à faire vivre l'ADN de ce miso et qu'on en a toujours. Le miso de Itate est encore en vie.
Et c'est ça le miso. Et Eiko-san l'amène là, cette délicieuse pâte, ouais. C'est une odeur forte, mais
c'est... C'est un aliment fermenté. Et tout ce qui est fermenté, c'est la base de la santé.
Oui, parce que c'est des levures. Et vous avez réussi à garder la levure qui permettait de faire la fermentation de cette pâte de haricots fermentée. Je vais goûter ça.
J'en mange 365 jours par an.
Et c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi bonne santé, alors. Oh, ouais, c'est un goût très très fort. Très capiteux, très puissant. Ça ressemble un peu à du roquefort, le vert du roquefort. Sauf que là, c'est une petite pâte marron claire. Et voilà comment cette recette aura pu être rescapée de la catastrophe de Fukushima grâce à Eiko et Yoshiko. C'est une campagne toute jolie qu'il y a dans ce coin-ci du Japon, dans la région du Tohoku. C'est la fin de l'hiver, donc là il y a encore de la neige un peu, mais de la neige à moitié fondue, c'est-à-dire qui fait juste ressortir le relief du paysage. C'est la fin de journée, donc toutes les maisons que je vois autour, les rares petites maisons un peu traditionnelles en bois, avec ces jolis toits, il n'y a que celle de Yoshiko qui est allumée, et tous les autres volets sont éteints. Et cette campagne presque d'estampe japonaise, elle est empoisonnée. Voilà sans doute pourquoi Yoshiko-san et Eiko-san, les deux mamies, sont parmi les rares à être revenus dans leur village, malgré les injonctions, malgré les incitations, y compris financières, des autorités japonaises qui veulent à tout prix faire rentrer dans la tête des gens que tout ça est du passé et que l'histoire peut continuer. Manque de bol, la radioactivité est là pour durer et les habitants le savent. Et Cécile Asanoma-Brice, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette conversation qu'on a eue avec ces deux mamies tellement attachées à leur terre qu'elles sont prêtes à revenir même si leur terre est empoisonnée?
Moi, ce que j'en retiendrai, c'est la colère qu'elles s'empêchent d'exprimer par pudeur. C'est des zones qui étaient déjà dans des processus de dépopulation avant l'accident. Et avec l'accident, tout ça s'est ultra accéléré. Le peu de jeunes qui restaient sont partis, ont refait leur vie ailleurs. Et donc tous ces territoires même si on les rouvre, ont beaucoup de mal à être redynamisés.
Et que... Coupe de seconde, là, Cécile, ça nous m'abrise parce que là, il y a des grands camions blancs qui portent des numéros. Là, c'est le 41-91 et juste devant, il y a le 47-25 et qui sont consciencieusement bâchés et qui ont ce signe vert à l'arrière pour que les conducteurs puissent le lire.
Là, il y a écrit qu'ils transportent de la terre ou en tous les cas des déchets vers les centres de stockage.
Et ces camions transportent la terre de la décontamination de toute la zone de Fukushima.
C'est ça. Il y a 3 ans maintenant, le gouvernement a pris pour décision de répandre et de réutiliser toutes les terres qui étaient en deçà de 8000 becquerels par kilo. Donc, ils ont remesuré la terre qui se trouvait dans les sacs et ils les épanchent à nouveau dans la nature.
On a doublé quelques voitures, quelques camions et là j'en vois encore un autre nouveau devant. Et ils sont au milieu de la circulation. Et c'est tout le monde sait, tout le monde le voit, ça fait partie du paysage, c'est normal, ça fait partie de l'absolue normalité d'avoir des camions de terre radioactive qui vont et qui viennent sur la file de gauche.
Finalement, effectivement, rien n'est caché. C'est une gestion très scientifique de toute cette catastrophe qui est mise en place. Et on a bien vu lors des interviews qu'on a fait que pour eux, la terre, ça n'est pas que des mots scientifiques qu'on pourrait aligner sur la nature, mais c'est bien plus que ça. Puisqu'on est dans une culture animiste, ils la conçoivent comme quelque chose de vivant. On ne peut pas dire que pour les habitants, ce soit anodin. Tout ce transport de terre, tous ces sacs de terre contaminés à droite à gauche.
Ça, c'est vraiment notre terre qui est empoisonnée et qu'on enlève.
Je reviens du monde d'avant.
Les autorités considèrent que dans la zone à 30 km de la centrale de Fukushima, la radioactivité est revenue à un niveau acceptable.
Après avoir vu des enfants tomber malades, saigner du nez après l'accident, j'ai réalisé qu'il y avait tellement de choses qu'il fallait qu'on connaisse mieux.
Face à la menace permanente des radiations, les mères de famille protègent leurs enfants comme elles peuvent.
Sur France Inter.
Les mères de famille tentent toujours de protéger leurs enfants de la radioactivité.
Je m'appelle Yumi Chiba. Je m'appelle Yukari Uchida.
On surnomme ces femmes les mères courage.
Je connaissais les Mama Benz en Afrique, mais maintenant je découvre au Japon les Mama Bek, les mamans qui pourchassent les becquerels. Cette unité de mesure de la radioactivité qu'on retrouve ici, tout autour, dans la terre, dans le paysage et aussi dans les gens.
C'est un groupe qui s'est mis en place après l'accident nucléaire et donc des mères qui élevaient leurs enfants ici se sont posé la question comment faire face aux conséquences de cet accident.
Parce que vous avez combien d'enfants, vous, Yuni? 3 enfants. Et vous? 2 enfants. On est où et on est à quelle distance du réacteur de Fukushima Daiichi?
Le périmètre d'évacuation autour de la centrale après l'accident était de 30 km. Or, Iwaki est en dehors de ce périmètre et donc n'a pas été évacué. Et nous, ayant conscience que nous avions été au départ exposés à l'iode radioactif, nous nous sommes donc concentrés sur le fait de limiter toute exposition supplémentaire à des particules radioactives.
Et alors vous avez fait comment ça? Parce qu'il faut du matériel, il faut des compétences. Vous connaissez, vous, en physique nucléaire, à l'origine?
Non, je ne connaissais rien au nucléaire. J'ai fait, à partir de mai 2011, un organisme qui s'appelle la CRIRAD nous a prêté du matériel pour mesurer les radiations.
La CRIRAD, c'est des Français. C'est-à-dire c'est une association française de documentation et de recherche sur les retombées radioactives. Et ils vous ont prêté des compteurs GGR à vous autres ici pour mesurer la présence de radioactivité dans votre environnement immédiat.
Oui, parce qu'il fallait faire en sorte de visualiser cet invisible. Et de ne pas passer pour une mère hystérique qui s'inquiète pour rien. Et donc, il fallait avoir des données concrètes.
Et alors, qu'est-ce qu'ils ont raconté à l'époque, vos compteurs GGR? Est-ce que c'est vous qui vous emballiez pour rien ou c'est les compteurs qui se sont emballés?
Ce qu'on a vu, c'est que par rapport aux bornes de mesure des radiations, ces bornes officielles, dès qu'on s'en éloignait, on trouvait des chiffres complètement différents. Et donc on ne pouvait pas se fier aux données officielles pour avoir une compréhension de la situation. Nous nous préoccupons principalement de ce que font nos enfants. Et comme nos enfants ne passent pas tout leur temps devant ces bornes officielles, nous voulions savoir ce qu'il en est partout où ils vont.
Vous disiez, vous connaissez rien à la physique nucléaire et à la radioactivité. Du coup, Yumi-san et vous, Yukari-san, vous avez dû apprendre, étudier pour vous mettre à niveau. Et que maintenant, de plus en plus de chercheurs reconnaissent comme une source d'information fiable. C'est ce qu'on appelle l'expertise citoyenne.
Nous avons récolté beaucoup plus de données que celles prises par les autorités et des données plus précises. Une de nos activités, c'est de mesurer les radiations dans les écoles primaires et dans les collèges et même devant les jardins d'enfants. Et c'est une activité qui requiert l'autorisation du rectorat que nous avons obtenue.
Et si on allait voir, pour voir comment vous faites votre travail de veille de la radioactivité, là où passent les enfants d'Iwaki, entre 30 et 50 kilomètres de Fukushima Daiichi?
Oui, allons-y.
Je vous suis.
On n'a pas du tout fini de décontaminer. Une bonne partie de cette région autour d'Iwaki, ce sont des forêts, ne sont pas décontaminées. On a des écoles qui sont au cœur de ces forêts. On a beau décontaminer là, les radiations reviennent. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut léguer aux générations futures?
Alors, nous voilà sur le parking d'une école avec le terrain de baseball et de football devant. Et au loin, on voit la digue et puis on devine la mer. Et
nous sommes à l'école primaire et au collège de Toyoma. Ici, c'est une zone qui a été frappée par le tsunami.
C'est pour ça que toute l'école a été reconstruite et retapée plus en arrière, plus dans les montagnes, plus au milieu des arbres. Et c'est un peu ce qui vous inquiète. Expliquez-moi les appareils que vous avez là, parce que les mamabecs, elles sont suréquipées avec du matos.
Ça, c'est un appareil qu'on appelle le détecteur de hotspot.
Très impressionnant, ça fait un peu film de science-fiction.
C'est un appareil à mesurer les radiations, qui s'appelle un survey meter, et c'est exactement le même appareil qu'utilisent les autorités locales.
Et hop, on suit Yumi-san et Yukari-san, bardés de détecteurs. Konnichiwa. Oui. On entend là. La répétition de la fanfare de l'école derrière.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part de la perspective de l'enfant. Et au lieu de mesurer à 1 mètre comme les autorités, on mesure les radiations près du sol. Et c'est ainsi que ce que nous découvrons, eh bien, c'est des niveaux qui ne correspondent pas aux standards de mesure des autorités. Que ce soit dans l'air à ras du sol et dans le sol lui-même, nous trouvons des endroits avec des pics de radioactivité. Et donc ce qu'on nous dit, c'est tout va bien, et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce travail pour alerter sur ce problème. On estime qu'ici, avant l'accident, il y avait entre 10 à 20 becquerels par kilo de radioactivité dans le sol. Maintenant, nous sommes allés prendre des échantillons de sol dans les lieux où les enfants sont, dans les écoles. Le niveau le plus élevé que nous ayons trouvé, c'était 130 000 becquerels par kilo.
10 000 fois plus.
Et donc ce chiffre, nous on l'a trouvé parce qu'on va mesurer à plein d'endroits, mais les autorités locales qui ne font pas ce travail n'en étaient pas conscientes.
Alors on arrive à un panneau au bout de la cour où il y a écrit « Keep out ».
C'est un panneau qui a été mis en place par le rectorat contre les radiations, mais sur le panneau, il n'y a rien d'écrit à ce sujet.
On allume le compteur GGR. Yumi-san montre où il faut le poser.
Je pense que c'est là-bas que c'est élevé.
On passe, nous, de l'autre côté, dans la zone où il ne faut pas aller. On voit les aiguilles qui s'agitent sur le compteur GGR et sur l'espèce de tablette que Yumi transporte avec la géolocalisation exacte des mesures qui sont faites au fur et à mesure. Alors elle tire un peu une branche pour voir.
Oui, donc visiblement c'est un hotspot qu'on a ici.
Plus on s'approche du sous-bois qui est vraiment collé à la cour de l'école, plus la radioactivité augmente.
Je pense que c'est parce que la radiation descend de la montagne.
Donc vous allez faire des recommandations à la direction de l'école, au rectorat, vous autres les mamabec.
Oui, la première étape pour nous, c'est de vérifier. Et on parle directement avec les enseignants de ces écoles en leur montrant les résultats et en leur disant ne serait-il pas mieux de faire en sorte que les enfants ne s'approchent pas de ces lieux.
Vous, vous êtes là pour faire le petit aiguillon avec le sourire, avec la diplomatie, mais ne pas s'endormir.
Oui, c'est ce qu'on me dit parfois, c'est que je suis quelqu'un qui a le sourire, mais c'est comme si j'avais un couteau caché dans le dos et je suis capable de sortir ce couteau et de les planter.
Oui, c'est plus un aiguillon là, ça devient une lame, ça devient un katana.
Arigato
gozaimasu.
Épisode 16. Fukushima. Radioactive mama, hold me tight. Avec les femmes et les mères en lutte. Radioactive mama, treat me right. Radioactive mama, we'll reach critical mass tonight. Well, when we get together, clear away the crowd. There won't be nothing left except a mushroom-shaped cloud. Radioactive mama, treat me right. It's critical mass tonight. Well, your kisses do things to me in oh so many ways. I feel them going through me, all those gamma rays. Radioactive mama, treat me right. Radioactive mama, we'll reach critical mass tonight.
Radioactive mama. Clément Baudet, le réalisateur, s'est dit que ça leur allait bien aux mamabec comme Becquerel qui inspectent les écoles de leurs enfants alors qu'on ne leur demandait rien, si ce n'est de ne pas faire trop de vagues. Mais vous avez sans doute remarqué comment Yuri Chiba disait « On veut pas passer pour des hystéros », tellement ce genre de remarques machistes fustent aussi au Japon quand des femmes sortent du rang et demandent des comptes. Et c'est vrai que là, en allant voir comment les Japonais vivaient l'après Fukushima, dans cette histoire où il y a vraiment un monde d'avant et un monde d'après la radiation, ce sont des femmes qui sortent du lot et qui prennent toute la place par leur courage et leur détermination. Comme Marie Suzuki de l'association Happy Island, à quelques kilomètres de là, et que Cécile Asanuma-Brice veut nous faire rencontrer. Radioactive mama, we'll reach critical mass tonight.
On arrive à Tsukagawa, à une heure de route et quelques de Fukushima.
On est à Koryama, qui n'a jamais été évacué, dont une bonne partie de la population est néanmoins partie parce qu'il y a eu pas mal de hotspots à l'intérieur de la ville. Et donc, ceux qui sont partis ont été appelés les évacués volontaires. Le gouvernement, lui, au moment de l'accident, a prétendu qu'il y avait 160 000 personnes qui étaient parties. Or, en fait, pour être comptabilisé dans ces chiffres, il fallait s'inscrire à la préfecture et se donner comme partant, ce qui engendrait la perte de certains droits, de la gratuité du suivi sanitaire ou d'autres choses, puisqu'en fait, ils étaient obligés de se déclarer comme ayant quitté leur préfecture.
C'est un peu comme si on était des déserteurs, et donc du coup, vous n'avez plus droit aux prestations.
D'une part, c'est ça, et puis c'est qu'en fait, ce chiffre de 160 000 donnés officiellement est complètement tronqué. On peut s'imaginer qu'il y a au moins le double de personnes qui sont parties.
Et aujourd'hui, d'après les mêmes chiffres officiels, c'est plus de 40 000 personnes qui n'ont toujours pas pu rentrer chez elles. Et là aussi, on peut imaginer que c'est davantage.
Oui, bien sûr. Ces chiffres sont vraiment interrogés. Il est assez difficile de penser qu'ils soient fiables. Ça donne même pas un ordre de grandeur, en fait. Le plus grand taux de population qui rentre, ça a dû être 30% à Kawauchi. Le reste, c'est tout en dessous de 20%, 10%. Namié, 1,8%. C'est vraiment ridicule. Alors, c'est des endroits qui, cela dit, viennent d'être ouverts. Mais Iitate, qui est réouvert maintenant depuis plus de 2 ans, accueille encore une population qui est extrêmement minime, puisque sur plus de 6000 habitants au départ, on en a un peu plus de 1000 aujourd'hui, moins de 20%. Donc, aujourd'hui, l'administration a décidé de revoir un petit peu sa politique et parle moins de reconstruction que de revitalisation en ne pensant pas continuer à s'appuyer sur la population première, mais en faisant revenir une population plus jeune qui viendrait de l'extérieur. C'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer d'attirer des entreprises pour redonner une vitalité, donc une seconde vie économique à ces communes.
Sous perfusion, essayer d'encourager une migration intérieure.
Voilà, c'est ça. On est arrivé...
Sukagawa.
Devant la pression des parents de Fukushima, les autorités ont lancé une grande étude.
75 cas de cancer de la thyroïde ont déjà été diagnostiqués chez des enfants de la région.
Je reviens du monde... d'avant.
Mais il faudra des années pour connaître les conséquences exactes de cet accident sur leur santé.
Guy Vanctil, sur France Inter.
C'est très rigolo, le centre-ville de Sukagawa. Il y a plein de statues sur le bord des routes. Et là, c'est des statues de poupins, mais sinon, c'est des statues de monstres à la Godzilla et de dessins animés japonais.
Non, c'est Ultraman.
Ultraman.
Je m'appelle Marie Suzuki, j'habite à Sukagawa, Koryama. Je suis le directeur d'une association qu'on appelle Happy Island.
Alors Happy Island, c'est pas juste pour faire un nom qui sonne américain et joyeux, c'est que Happy Island, c'est ce que veut dire Fukushima en japonais, île joyeuse. Et puis c'est une manière aussi de ne pas se laisser complètement abattre et de rester happy, de rester joyeux.
Oui, c'était le fait d'être un peu plus positif et puis d'avoir véritablement le souhait que l'on puisse de nouveau vivre à Fukushima de façon sereine.
Ici, là, c'est une espèce de centre culturel. On voit des petits bambins tout mignons de 2 ans qui sont encadrés par des dames et qui vont faire des activités et des jeux. Mais ici, vous êtes là pour faire des échographies de la thyroïde chez des enfants de la région pour mesurer si oui ou non il y a des débuts de cancer de la thyroïde.
Il y a une réalité qui est là, c'est le fait que nous sommes contaminés et on doit faire avec. Donc il faut que ce suivi sanitaire s'implante dans notre quotidien.
Mais c'est vous qui faites ça, des associations, des maires, des parents, c'est pas l'État.
Mais de toute façon on n'a pas le choix parce qu'il n'y a que ça.
On suit les petits-enfants là, qui sont là.
En haut, il y a un centre où les enfants peuvent s'amuser. C'est un endroit où avant, on ne pouvait pas trop jouer à l'extérieur. Donc, ils ont développé des pièces pour que les enfants puissent jouer à l'intérieur. Donc, des aires de jeu qui, normalement, devraient être à l'extérieur se retrouvent à l'intérieur des bâtiments.
Et ça a l'air super, effectivement. Là, c'est une espèce de gigantesque trampoline. Mais ça, Marie, c'est à cause de la radioactivité qu'on a mis les enfants à l'intérieur.
Bien sûr, aujourd'hui, ça n'est plus quelque chose que l'on peut dire ouvertement, n'est-ce pas? En fait, ce sont des endroits qui ont été créés avec le budget de la reconstruction.
Et là, on passe dans la partie bibliothèque, avec des mangas, et on rentre dans une salle. Hi, konnichiwa.
On va vous montrer un petit peu la façon dont se déroulent ces séances d'échographie de la thyroïde.
On est dans une salle d'une bibliothèque avec des volontaires de cette ONG qui sont avec leur petit t-shirt Happy Island. Mais dans un coin, il y a une petite banquette et un échographe et docteur Kaoru Konta qui met sa blouse.
Moi, je suis médecin du département de Fukushima. J'habite à 80 km de la centrale et je pensais en fait qu'on ne pourrait pas continuer à vivre ici. Donc, j'ai fait en sorte que mes 3 enfants soient réfugiés. Puis, je suis allée à plusieurs réunions d'information sur la centrale nucléaire de Fukushima. On me disait finalement qu'il n'y avait pas de problème, que c'était sûr, et puis j'ai fini par être rassurée dans un premier temps. Et puis, je suis allée à une conférence sur la situation à Tchernobyl. Et quand j'ai posé des questions, on m'a dit « Ici, personne ne peut vraiment vous répondre ». Finalement, je suis allée à plusieurs conférences comme ça, à droite à gauche, et on a vu qu'ici, on ne trouverait jamais de réponse. Donc, nous nous sommes réunis avec 5 autres collègues médecins et nous sommes partis en Biélorussie pour voir ce qu'il en était.
Vous vous êtes fait une formation sur le taf. Vous vous êtes dit « Allons voir par nous-mêmes ». Puisqu'on n'obtient aucune information ici, à côté de Fukushima.
On a pris tout ça sur nos frais personnels et nous sommes allés en Biélorussie pour chercher des informations sur la question. En Biélorussie, pendant 10 ans, on leur a dit qu'il n'y avait aucune conséquence sanitaire.
À l'accident de Tchernobyl.
En fait, après 10 ans, on a commencé à avoir plein d'enfants qui ont développé des cancers de la thyroïde et le gouvernement lui-même n'a pu plus soutenir le même discours. Donc si ça se trouve, ici aussi, c'est à partir de 10 ans que les cancers vont commencer à se développer et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé à faire ces échographies de la thyroïde.
Parce que les enfants sont les premiers à développer sur le moyen terme, des pathologies liées à l'exposition aux radiations, c'est ça?
Je vais vous montrer ça sur un graphique que je vous ai préparé sur mon ordinateur, on le voit très clairement.
Et là, vous avez superposé la carte de Fukushima sur celle de Tchernobyl. Alors là, c'est un tableur, on voit des dates et puis des âges.
Là, on peut voir la date de l'accident de Tchernobyl en 1986. Et puis, on suit les enfants en fonction de leur âge.
Et après, on voit effectivement la courbe qui était toute plate et après fait un pic.
J'ai comparé les taux de radiation qu'il y avait en Biélorussie et puis ici. Ce que l'on peut voir, c'est que c'est à partir de maintenant, 10 ans après, que le nombre de cancers de la thyroïde a augmenté.
La conclusion que vous en tirez, docteur, si les choses se passent comme pour Tchernobyl, c'est maintenant qu'on devrait voir apparaître, chez les enfants qui avaient 0,5 ans au moment de la catastrophe de Fukushima, il y a 9 ans, c'est maintenant qu'on devrait voir apparaître une recrudescence de cancers de la thyroïde chez les enfants de la région.
Les chiffres officiels montrent qu'il y a 238 enfants de moins de 18 ans qui ont développé un cancer de la thyroïde. Lors du premier dépistage, on a repéré 176 personnes. Mais après 2, 3, 4 vagues de dépistage, le nombre de personnes que l'on a repérées a considérablement augmenté. Et donc, je pense que si on continue, on va en repérer d'autant plus.
Il y a un jeune homme qui arrive avec sa fiche. Il s'allonge sur la banquette. On lui applique un liquide qui permet de faire passer l'échographe. Et le docteur joue sur le contraste. Ça va? Il est un peu nerveux, le jeune homme. Et t'as quel âge? 18 ans. Et c'est quoi ton prénom?
Kadota Shinichi.
Kadota. Et c'est toi qui as choisi de venir d'ici, tout seul, ou on t'a conseillé de venir, ou c'est tes parents?
On m'a invité, et puis moi j'avais aussi envie de savoir. J'avais 9 ans, et au moment de l'accident, j'étais à l'école, j'ai eu très 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 peur.
Et alors, je peux vous dire qu'il n'emmène pas large. Shinichi, c'est vraiment un petit jeune homme avec un duvet de moustache et un t-shirt Marvel, qui a un petit sourire un tout petit peu nerveux pendant que le docteur essaye de le mettre à l'aise. Il y a une photographie qui sort sur la petite imprimante.
Là, on voit bien la totalité de la thyroïde. Et donc, quand je rajoute la circulation sanguine, je vois pas de problème. La circulation s'effectue bien.
Alors, t'es rassuré? Et il a droit à la petite photo. Et alors, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des autorités qui disent « Bon, maintenant, arrêtons avec Fukushima, regardons vers l'avenir, c'est de l'histoire ancienne, c'est passé. »
Je n'ai plus aucune confiance en ce que dit le gouvernement. Pour être tout à fait franc, je pense qu'ils ne pensent qu'à eux. Ce que nous, on peut subir, ce que le peuple peut subir, ça les intéresse assez peu, en fait, non ?
Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier, comme t'es tout jeune, 18 ans?
Moi, j'aimerais bien faire le doublage des voix dans les dessins animés.
Et c'est pour ça que t'as un t-shirt Marvel avec Iron Man, Captain America, Hulk et les Team Avengers.
Avengers, ils sont trop bien, les Avengers.
Je me souviens, Spider-Man, par exemple, l'homme araignée, c'est quand il a été piqué par une araignée radioactive qu'il a eu des super pouvoirs. Toi qui es fan de super-héros.
Et bien, si moi aussi j'ai ce super pouvoir, je peux vous dire que je l'attraperai d'un coup d'un seul et j'irai sauver toutes les personnes qui doivent l'être.
Bravo, félicitations. Et là, pendant qu'on rigole, avec Nichi, il y a Sahaya, qui est une jeune femme qui faisait passer, elle, son contrôle. Et là, ça a l'air un peu moins drôle parce que je vois que la docteure, qui est en train de montrer une zone sur l'écran avec une opacité, avec en train de mesurer la circonférence de cette opacité, elle est en train de lui montrer sur l'écran qu'il y a probablement quelque chose de pas normal.
Donc ça, il y a un nodule dans la thyroïde qu'ils sont en train de mesurer, qui fait 5 mm
de longueur
et 3 mm de largeur. C'est mon canus, c'est saigné. Dans ces cas-là, je leur conseille effectivement d'aller voir un spécialiste pour qu'il fasse une biopsie et voir si le nodule ne contient pas des cellules malignes.
Sahaya, je sais bien que ce n'est pas le moment de vous embêter. Ça doit être un peu secouant d'avoir un examen comme celui-là.
Je ne sais pas si le nodule qu'on trouve là dans ma thyroïde, c'est une conséquence de ça ou pas. Mais en tous les cas, le gouvernement nous disait qu'il n'y avait absolument pas de problème. On ne nous a jamais averti du fait qu'il pouvait y avoir un risque de quoi que ce soit. J'ai autour de moi des amis assez proches qui ont un cancer et on ne sait pas si c'est dû ou pas à l'accident, mais ils ne peuvent plus travailler et ça a des conséquences très lourdes. Le fait qu'ils fassent repartir les centrales nucléaires, la seule chose que je puisse dire, c'est qu'ils sont complètement fous, n'est-ce pas? Certainement que la voix des Japonais était trop faible pour être entendue. C'est loin d'être fini.
Docteur Konta.
Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'au Japon, y compris dans les écoles, on nous demande d'arrêter de faire ces échographies de la thyroïde.
C'est ça, des rapports ont été faits, des rapports officiels des autorités sanitaires, mettant en avant des risques de surdiagnostic. C'est-à-dire que si on cherche trop des cancers de la thyroïde, forcément on en trouve trop, et que en plus ça amène du stress, et donc des appels ont été faits par les autorités sanitaires à ce que vous cessiez ces examens-ci, puisqu'ils révélaient un surcroît de début de tumeur de la thyroïde.
En fait, pour ne pas pouvoir prouver que la radioactivité a des effets sanitaires, eh bien on nous demande d'arrêter nos recherches. Mais en fait, je suis persuadée qu'il faut continuer à faire ces dépistages et c'est la raison pour laquelle, bénévolement, je continue à les aider.
Arigato gozaimasu. Là, je vois qu'on s'agite derrière parce qu'on nous réclame.
Je reviens du monde d'avant.
Docteur Koharu Konta ne chôme pas parce qu'elle joue, comme toutes ces associations de maires autour de Fukushima, un contre-la-montre face à l'inertie d'une partie des pouvoirs publics. Parce qu'au Japon aussi, on préfère mettre la poussière sous le tapis, fût-elle radioactive. Mais notre portrait de femme en lutte ne serait pas complet, en plus de celle qui se démène pour la détection de la radiation et de la prévention, sans celle qui, comme Mesdames Muto et Sakiyama, contre-attaque, entraînant TEPCO et les autorités devant les tribunaux. Parce que garantir la sécurité de leurs enfants, c'est aussi vouloir la justice.
Épisode 16. Fukushima, avec les femmes et les mères en lutte.
Bien que l'on a détecté des hotspots un petit peu partout et que la radioactivité est encore à un niveau très élevé, on nous dit qu'on va organiser ici les Jeux Olympiques. Mais vraiment, à quoi ça ressemble? Alors qu'on devrait se concentrer pour tenter de protéger nos enfants.
Voilà les propos qui sont tenus dans une toute petite manifestation d'une soixantaine de personnes qui se retrouvent ici devant le palais de justice de Fukushima. Pas mal de personnes d'un certain âge, une majorité de femmes, j'ai l'impression. C'est très, très pacifique, très calme.
Et vous êtes une des instigatrices, Riko-san, de cette manifestation ?
2012年に福島県民
Oui. En 2012, moi et puis d'autres habitants de Fukushima, nous avons décidé d'intenter un procès contre TEPCO. Le procès a commencé en 2017 et ça n'est que l'année dernière que nous en avons eu le résultat.
Accusés de négligence, ils encouraient 5 ans de prison ferme et avaient tous plaidé non coupables.
Silence des plaignants, indignation de Greenpeace. Le tribunal de Tokyo a jugé ces 3 anciens hauts responsables de TEPCO non coupables des conséquences de la catastrophe nucléaire de Fukushima.
Selon les plaignants, ces ex-responsables disposaient d'informations pour anticiper les risques de ce tsunami géant et n'auraient pas agi en conséquence.
Bien sûr, nous avons fait appel. En attendant, nous recommençons à nous concentrer de toutes nos forces pour rassembler les arguments qui nous permettent de montrer combien cette décision était très insultante. Ça signifie aussi que la prochaine fois qu'il y aura un accident, eh bien, il n'y aura encore toujours pas de responsable. Et donc ça veut dire qu'on se destine directement vers un autre accident. On a visé à faire en sorte que l'économie trouve un équilibre aux dépens de la sécurité.
Arigato gozaimashita. C'est une manifestation très très bien réglée. Chacun prend la parole à son tour. Et puis au bout d'un moment, hop, on replie les affiches. Les deux chanteurs anti-nucléaires, c'est les mêmes qu'on retrouve un peu partout dans le monde pour dire non au nucléaire. Voilà, c'était une journée à Fukushima avec celles et ceux qui refusent de se résigner au silence et à l'obéissance. Quand le Premier ministre dit que tout va bien et que la situation est sous contrôle, quand les pouvoirs publics disent que il faut regarder l'avenir, et ben eux, ils refusent de se contenter de ces mots et préfèrent enquêter, préfèrent mesurer, préfèrent continuer la vigilance ensemble. Fukushima Genpatsu, we'll throw down la Otomo Nigase, Osha no Ato da.
お茶の誰の頭の上にも降ってくるんだぜ明るい貧乏貧乏それがエコロジー助け合って生きる分かち合って生きる人はそうやって生きてきたんだぜ Joy, 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 la, 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 peace on the earth.
Yeah, 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 that, 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 that's Ken, that's, yeah.
Don't worry, chapeau bas à Yoshiko, Eko, Yuri, Yukari, Mari, Kaono et toutes les femmes en lutte à Fukushima et ailleurs. Un grand merci à Miguel Quintana pour la traduction, à Yuki Takahata et Colin Kobayashi, et bien sûr à la sociologue Cécile Asanomabris du CNRS Tokyo que nous avons accompagnée au cours de ce reportage. Son dernier livre, Un siècle de banlieue japonaise, est paru aux éditions Métis Press. Vous pouvez retrouver toutes les infos, les photos et les liens sur franceinter.fr où vous pourrez aussi retrouver les podcasts en version longue de toute la série du Brésil au Groenland en passant par l'Australie. C'était Je reviens du monde d'avant, bien content d'être de retour au présent. Un grand merci à Clément Baudet qui a réalisé cette émission et Juliette Delperroux qui l'a mixée. Et je vous redonne rendez-vous samedi et dimanche prochain à 17h pour les dernières étapes de notre voyage entre le Brésil et l'Islande pour se poser des questions du genre et maintenant, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on range le carbone ?